Mon propos ne va pas être d'une originalité extrême, puisque ce qu'on m'a demandé de faire, c'était plutôt de revenir sur un numéro de Nouvelles Questions Féministes que j'avais coordonné avec deux de mes collègues suisses, vraiment suisses, elles, Nathalie Benelli et Séverine Rey, donc il y a quelques années, qui portait sur les métiers de service, et on avait notamment rédigé l'édito de ce numéro pour faire état, disons, d'un certain nombre de questionnements qui s'étaient imposés à nous au moment de travailler donc sur cette question de métiers relationnels et des rapports de genre, on va dire des rapports de genre en classe. L'ethnicité était peut-être un tout petit peu moins présente dans nos réflexions, mais en tout cas, c'est essentiellement autour des réflexions développées dans cet édito que je vais démarrer mon propos de ce matin. Et pour l'illustrer finalement, pour montrer concrètement comment ces difficultés, qui sont des difficultés, me semble-t-il, à la fois conceptuelles et méthodologiques, pour illustrer la difficulté de la mise en œuvre d'une perspective intersectionnelle, disons, pour l'analyse de la relation de service, je vais prendre l'exemple d'une recherche qui est en fait une recherche de l'une de mes doctorantes à Lausanne, Isabelle Zinn, qui va soutenir sa thèse la semaine prochaine, la semaine d'après, et qui m'a autorisée donc à faire référence à un article qu'on a rédigé ensemble autour du cas des fleuristes, et surtout des fleuristes hommes en Suisse. Et en fait, je crois que ce que je vais illustrer à partir de cet exemple-là, c'est précisément ce que disait Jean-Pierre Durand à l'instant, c'est-à-dire la nécessité de rendre compte des rapports de domination de manière située et de manière raisonnée, disons, de ne pas partir du postulat qu'une approche intersectionnelle est pertinente sur toutes les scènes de l'activité professionnelle ou dans tous les contextes socio-historiques. Je le dis assez mal, mais j'espère que ce sera plus clair tout à l'heure. Alors, pour revenir donc sur l'édito de ce numéro de NQF, en fait, ce qui nous avait frappé à la lecture des articles que nous avions eu à expertiser, c'était en fait la grande difficulté ou les risques de glissement qu'il y avait dans la manière de penser le relationnel du point de vue du genre dans les recherches contemporaines, principalement francophones. Alors, nous en sommes venus à se dire qu'il y avait en fait des écueils à la manière de penser le rapport entre genre et relationnel, ou entre métier de service et relationnel, ou ici entre relations de service et intersectionnalité. Et je voudrais revenir sur deux de ces écueils que nous avions donc identifiés à ce moment-là. Le troisième, je l'ai mis en bad slide, mais en fait, je ne m'y attarderai pas aujourd'hui, faute de temps. Donc le premier problème que nous avons identifié concernait la manière de penser le relationnel dans l'analyse du genre au travail, disons. Voilà. Comment nous en sommes venus à penser le relationnel comme étant quelque chose de plutôt spécifique au métier de service, et comment nous avons pensé le relationnel comme quelque chose de plutôt central dans les métiers féminins. Et nous, chercheurs, je veux dire là. Et puis le deuxième écueil concernait ce que nous avons appelé la place du relationnel dans les récits des salariés. Et là, on a notamment un des articles dans ce numéro que vous connaissez sans doute très bien. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande chaleureusement, qui est l'article de Cartier et le chien, où elle montre justement comment une approche méthodologique qui combine ethnographie et entretien révèle en fait les écarts stupéfiants entre ce que les gens disent qu'ils font au travail et de ce qu'ils font réellement au travail, et notamment des biais dans la manière de raconter la dimension relationnelle de son travail en fonction de son appartenance sexuée. Donc, il me semble que là, il y a quand même des interrogations que l'on a intérêt à partager et à réfléchir ensemble. Je dirais, pour démarrer, que selon le statut social des activités de service étudiées, l'attention que l'on accorde à la dimension relationnelle du travail est loin d'être équivalente. Nous avons tendance, me semble-t-il, dans la recherche féministe francophone, je fais une espèce de raccourci inadmissible sur lequel on pourra revenir, à supputer ou à suggérer un lien causal entre l'exigence, la mise en œuvre de compétences relationnelles, la composition sexuée d'un groupe professionnel et son statut dans la hiérarchie socio-professionnelle. De dire que le relationnel, c'est féminin et le féminin, c'est subordonné. Et il me semble que là, on a vraiment un certain nombre de zones d'ombre ou de points d'aveugle que nous ne voyons pas le relationnel partout. Nous le voyons de manière plutôt sélective. Et quand il s'agit d'analyser la centralité des compétences relationnelles dans l'exercice du travail, tous les métiers ne sont pas logés à la même enseigne. Je dirais tous les métiers, en fonction de leur sexuation, ne sont pas logés à la même enseigne. Et assez paradoxalement, me semble-t-il, on a un double mouvement quand on analyse la division sexuelle du travail. D'abord, on a un mouvement très fort qui consiste à dénaturaliser les compétences relationnelles des femmes. Donc là, on montre effectivement comment les femmes apprennent à être, comment elles acquièrent ces compétences relationnelles. Et en même temps, et c'est là le paradoxe, nous avons plutôt tendance à renforcer, voire à promouvoir l'idée que les métiers féminins sont plutôt des métiers relationnels. Enfin, ce sont des métiers qui exigent des compétences relationnelles. Surtout d'ailleurs quand il s'agit de métiers féminins peu qualifiés. Il me semble que là, il y a une petite tension. Cette tension est d'autant plus problématique d'un point de vue analytique que finalement, le caractère relationnel des métiers, donc quelquefois, le caractère relationnel des métiers devient ce qui explique leur position subordonnée dans la hiérarchie socio-professionnelle. Et du coup, là, on a une espèce de boucle qui me paraît assez problématique par moment. Moi, qui travaille essentiellement sur des métiers dits qualifiés, médecin, prof d'université, avocat en ce moment, je peux dire qu'il n'y a pas plus relationnel. Enfin, il n'y a pas plus relationnel ou il n'y a pas plus et technique et corporel et tout ce qu'on veut, mais enfin, en tout cas, très relationnel. Or, ces métiers-là ne sont pas appréhendés par ce biais-là. C'est une approche qui est réservée pour un certain type de métier fortement féminisé. On doute pas effectivement que les femmes, que dans les métiers à forte composante relationnelle, il est parfois difficile de faire reconnaître ces compétences-là. Mais comme il a toujours été difficile pour les femmes de faire reconnaître des compétences, quelles qu'elles soient, je dirais, historiquement, mais je ne suis absolument pas certaine, je ne suis absolument pas certaine que c'est parce que ces métiers sont relationnels ou parce que la composante relation de ces métiers est dominante que c'est pour ça que la reconnaissance est plus compliquée à obtenir. En tout cas, première observation, quand les métiers sont prestigieux ou pas prestigieux, on n'appréhende pas le relationnel de la même manière et il me semble que c'est plutôt problématique. Juste, parce que j'ai pris le train hier et que j'ai eu le temps grand journal genevois gratuitement, juste pour vous dire qu'il y a du relationnel ailleurs que dans les métiers féminisés subordonnés. Voilà un article qui fait état de la difficulté des médecins à affronter les interactions avec leur clientèle qui se permettent d'aller faire des commentaires sur le service reçu par le biais du net. Je dirais donc qu'on a parfois des glissements ou des manques de rigueur et on en vient à des raisonnements un peu en boucle qui posent le relationnel comme dévalorisé, qui posent ce qui est dévalorisé comme féminin ou qui posent ce qui est féminin comme dévalorisé et relationnel. Et que du coup, on rate un peu l'enjeu majeur qui est effectivement de se dire, plutôt, je prendrai appui sur les apports de Daniel Kergoat, que ce qui est défini comme relationnel, et ce qui est défini comme féminin, et ce qui est défini comme dévalorisé, est plutôt un enjeu de la division sexuelle du travail, non sa raison d'être. Or, j'ai le sentiment que parfois on a des raisonnements inverses. Et donc, notre proposition dans cet édito a été d'encourager un scepticisme sur ce point, de dire, là on est sur le relationnel dans l'œil du chercheur, hein, arrêtons de voir du relationnel là où on voit des femmes, ou en tout cas, interrogeons-nous sur ce que nous voyons quand nous voyons du relationnel dans les métiers hyper féminisés, et donnons-nous comme objectif d'aller traquer du relationnel avec autant de fougue et d'enthousiasme du côté des métiers qui ne sont pas habituellement associés à ce terme. Et c'est là où l'article de Marie Cartier et Marie-Hélène Le Chat est vraiment passionnant, parce que effectivement, ce qu'elle montre très clairement, et je vais enchaîner là-dessus, c'est que du côté des salariés qui interviennent auprès de la petite enfance, effectivement, quand il s'agit d'observer effectivement ce que font ces femmes au quotidien, bah, elles font beaucoup de choses qui n'ont absolument rien à voir avec le relationnel. Elles déplacent des tables, elles installent des voilà. Et par contre, du côté des postiers ou du côté des gardiens de prison, il y a énormément de relationnels, mais qui n'apparaît jamais dans la description de ces métiers et de ces contenus. Et donc notre regard est en partie biaisé par ce que nous attendons. Donc ça me permet d'enchaîner directement avec le deuxième écueil ou la deuxième mise en garde, qui est d'ordre méthodologique et qui concerne le récit produit par des salariés quand il s'agit de rendre compte de la nature de leurs activités de travail. Et ce que nous faisons, chercheurs, avec ces récits indigènes. Voilà. Quand quelqu'un dit « mais moi mon travail, il m'importe, ce qui m'importe dans mon travail, c'est la dimension relationnelle. Okay. » Bon, alors, on en fait quoi de ça? Surtout, c'est une femme qui le dit. Alors, je pense que là, on aurait effectivement tout à gagner à revenir sur les apports des approches interactionnistes pour insister sur le fait que, enfin là, je parle plutôt de la sociologie des groupes professionnels, que les rhétoriques que les membres d'un groupe professionnel développent sont principalement des rhétoriques de justification de leurs aptitudes à exercer de manière convenable leur métier, que ce n'est sans doute pas étonnant que les femmes, du coup, insistent sur la composante relationnelle de leur métier et que les hommes valorisent et s'approprient la dimension technique des leurs. Ça, c'est de mon point de vue, un résultat de recherche tout à fait intéressant, mais ce n'est pas une conclusion de recherche. C'est ce qui devrait ouvrir en fait un nouveau pont de l'analyse qui nous permettrait de comprendre ce qu'il en est du statut de ces récits, de savoir si effectivement quand où est le relationnel qui ne se dit pas, dans les récits masculins, par exemple, où est la corporéité et l'émotionnel dans ces métiers qui n'impliquent pas nécessairement autrement dit, de s'interroger vraiment sur le fond de cette distinction systématique, mais à mon avis un peu abusive, entre le contenu du travail industriel et le contenu du travail de service. Il y a du corps, il y a de l'émotion, il y a du relationnel. Enfin, je suis pas convaincue en fait par cette dichotomie qui nous renvoie en fait à des espèces de changements historiques dans l'organisation du travail. Alors, pour illustrer tout ça, pour montrer en fait les dilemmes, comment ces dilemmes se posent dans le cadre de recherche concrète de terrain, donc je voudrais revenir sur l'article que l'on a rédigé avec Isabelle Zine. Alors je dois dire tout de suite que tout le terrain est d'elle. Par contre, les réflexions ont bien été menées ensemble. Donc la question de recherche est plutôt de se dire, comment se manifeste le genre dans le cadre des activités professionnelles qui mélange une dimension matérielle et une dimension relationnelle. Donc, elle travaille, sa thèse porte sur une analyse pas tout à fait comparée, disons une analyse parallèle des bouchers et des fleuristes dans le contexte suisse. Et en fait, le postulat de base consiste à dire que tous les rapports sociaux ne sont pas pertinents sur toutes les scènes professionnelles. Je pense que c'est comme ça que je peux le dire, qu'il y a et que selon les groupes professionnels, sans doute selon les contextes sociétaux et selon les périodes socio-historiques, la scène sur laquelle le genre va être la principale dimension de structuration des activités professionnelles, et sur d'autres scènes, le genre va être considéré comme totalement inopérant, enfin insignifiant. Voilà, je pense que c'est vraiment le terme qui convient. Et que du coup, qu'est-ce que ça nous invite à penser en matière d'articulation, de co-construction ou de consubstantialité de différents types de rapports sociaux? Est-ce qu'on peut dire aussi que sur certaines scènes professionnelles, il y a des combinaisons de rapports sociaux qui sont particulièrement pertinents ou qui sont investis d'une pertinence par les acteurs et les actrices, alors que cela n'est pas le cas dans d'autres espaces sociaux ou dans d'autres moments de la vie professionnelle. Alors c'est un peu ça l'interrogation qui constitue le fil conducteur de cette recherche et surtout de l'analyse que l'on a développée donc avec Isabelle. Alors j'ai mis ici assez rapidement la nature de son terrain d'enquête. Avec donc des méthodes mixtes, avec de l'ethnographie, des entretiens, l'analyse secondaire de statistiques et une ethnographie plutôt multisituée, donc avec l'observation de fleuristes dans différentes situations de travail à travers le pays. Alors quelques informations quand même de contextualisation. Donc un métier dans le contexte suisse qui est un métier fortement féminisé, 6% d'hommes, un métier manuel qualifié pour lequel il faut un apprentissage et un certificat de compétences. 20% à peu près des fleuristes en activité qui ont un statut d'indépendant, avec une proportionnalité évidemment sans surprise. Les hommes sont plus souvent indépendants que les femmes. Mais comme les hommes sont très 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 minoritaires dans ce métier, la plupart des boutiques de fleuristes sont quand même gérées par des femmes. Il ne faut pas oublier non plus, c'est pas tous les hommes sont patrons et les femmes ne le sont pas. Et évidemment, une surreprésentation masculine dans les instances de décision et de défense du métier. Alors, ce qui intéresse Isabelle dans sa thèse et ce qui nous a intéressé dans le travail que nous avons fait ensemble, c'est quand est-ce que le genre devient pertinent? Quand est-ce que le genre est vraiment investi comme le rapport social qui permet de comprendre ce qui se passe et qui permet d'organiser le travail? Et le résultat est, me semble-t-il, intéressant et nous interroge, nous pousse un peu dans nos retranchements analytiques, parce que ce que l'on observe, c'est que, y compris dans des situations mixtes, bien sûr, hein, qui sont plutôt rares, puisque les hommes sont vraiment très, 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 très minoritaires, le genre n'est jamais mobilisé comme une catégorie pertinente pour définir les principes de répartition des tâches. Et pourtant, chez les fleuristes, il y a des tâches qui nécessitent un peu de force physique. Il faut charrier les seaux, il faut décharger les livraisons. Il y a des activités qui sont des activités que l'on pourrait qualifier d'artistiques créatives, où il faut habiller les vitrines, mettre en valeur des objets. Il y a des moments d'intervention dans des événements chargés d'émotions dans la vie des individus, les fleurs de mariage, les fleurs de deuil, etc., etc. Et ben, à aucun moment, sur aucune des scènes observées, l'appartenance sexuée n'est mobilisée comme étant pertinent pour décider de la répartition des tâches. Qui doit faire quoi et quand ? Y a d'autres critères, hein, de répartition des tâches, mais qui sont vraiment asexués. Disons qu'il y a dans ce métier une interchangeabilité potentielle des individus ou une insignifiance de l'appartenance sexuée pour la décision de la répartition des tâches. Le sexe des fleuristes est inconséquent pour la répartition des tâches. Par contre, ça ne veut pas dire que le genre n'ait aucune influence, aucun impact au sein de ce métier. Bien au contraire, l'appartenance sexuée est mobilisée de manière absolument centrale dans l'interaction avec les clients et dans la définition et la mise en œuvre des stratégies commerciales. Et c'est vraiment assez stupéfiant. C'est-à-dire ce décalage, on peut dire, hein, cet écart. Un fleuriste ou une fleuriste ne peut pas prendre une commande de fleurs sans connaître le sexe du destinataire du bouquet. C'est impossible. On ne peut pas faire un bouquet sans savoir si c'est destiné à un homme ou une femme. Et dans les interactions commerciales plus directes, hein, quand quelqu'un rentre chez un fleuriste, dans une boutique de fleurs, dès le premier coup d'œil, l'appartenance sexuée de l'individu va être pris comme un indicateur absolument direct de la manière de créer la relation commerciale. Donc les hommes sont définis d'emblée, sans aucune hésitation, comme des incompétents floraux absolus. Voilà. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'être accompagnés. Surtout, il ne faut pas les laisser perdus dans le magasin. Et donc, ils font l'objet systématique de stratégies de vente très directives et très interventionnistes. Et en fait, on leur dit tout de suite, on leur demande pour quelle occasion ils viennent chercher des fleurs, et on leur dit tout de suite quelles sont les fleurs qu'il leur faut. Et on leur vend ce qu'on a décidé de leur vendre. Les femmes, par contre, sont censées savoir exactement ce qu'elles veulent. Enfin, elles ont des préférences esthétiques, on suppose, enfin voilà, ça va de soi, elles ont des préférences esthétiques et elles font l'objet de stratégies de vente passives et je dirais un peu... Les fleuristes font preuve de soumission, de subordination à leur égard, c'est-à-dire ce qu'elles disent qu'elles veulent, c'est ce qu'ils leur vendent. Et ceci, que les fleuristes soient hommes ou femmes. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y a une naturalisation des compétences florales des clients, hommes et femmes, qui ne se retrouvent absolument pas du côté des compétences des fleuristes eux-mêmes et elles-mêmes. C'est une espèce de je ne sais pas comment on dit ça, de scission cérébrale, cognitive. Donc, les hommes et les femmes fleuristes, en fait, ne sont pas considérés comme des hommes et des femmes. Enfin, disons, voilà, ils ont des compétences florales qui ne sont pas ceux du quidam, enfin, de leur clientèle. Alors, ce qui vraiment est intéressant, de mon point de vue, c'est qu'est-ce que ça signifie du point de vue du pouvoir. dans ces situations-là, pour le coup, de vente, de commercialisation en face à face. Et là, il me semble que les choses sont assez complexes parce qu'il y a une espèce de brouillage des hiérarchies sexuées telles qu'on les pense habituellement. Les hommes sont des clients faciles. Ah. On peut leur, comme disent les fleuristes, on peut leur fourguer à peu près tout, ce qu'on veut. Vraiment, ils n'y connaissent rien. On leur dit oui, ça c'est très bien, les roses rouges et les feuilles rouges, ça, oh oui, ça va très bien ensemble. Et ils partent, ils sont heureux. Et en même temps, ils ont des achats qui sont peu fréquents et des goûts que les fleuristes eux-mêmes qualifient de convenus. Aucun intérêt. Donc aucune mise à l'épreuve des compétences professionnelles des fleuristes quand ils ont des clients masculins en face d'eux. Des femmes, par contre, elles sont exigeantes, voire même un peu chiantes des fois. Elles ont des attentes élevées, mais c'est en satisfaisant leurs attentes plus élevées que les fleuristes peuvent évidemment se distinguer sur le plan de la performance professionnelle. Donc une performance plus distinctive. Et c'est évidemment là où on se dit, mais qu'est-ce qui se joue là? Où est le pouvoir? Qui du client ou de la cliente ou du fleuriste ou de la fleuriste, finalement, l'emporte dans ce type d'interaction? Donc on peut dire que, effectivement, dans ce cas précis, dans le récit indigène, on pourrait dire, et c'est plutôt rare, ni les hommes ni les femmes fleuristes ne pensent que les femmes fleuristes, ont des compétences relationnelles particulières. Donc, et malgré le fait qu'effectivement, souvent, les hommes ont plus de chances d'être patrons que les femmes. Et en même temps, on voit bien que ces appartenances sexuées deviennent extrêmement pertinentes, extrêmement opératoires, pourrait-on dire, dans ces interactions commerciales. Elles déterminent la nature de la relation de service établie avec la clientèle et elles définissent les attentes en matière de rétribution symbolique ou matérielle. De la part des fleuristes des deux sexes. Et du coup, on pourrait se dire que dans le continuum des fleuristes, on a Isabelle a identifié une espèce d'axe qui n'est pas une hiérarchie, hein, qui est vraiment une espèce de tension autour de la créativité et du sens commercial. Donc en fait, un fleuriste ou une fleuriste est tiraillé en permanence entre le fait de produire des bouquets qui correspondent aux normes de l'excellence professionnelle et ou de produire des bouquets qui ont quelque chance de se vendre. Donc cet axe créativité sens commercial organise le métier et dans ce continuum de compétences, il y a évidemment, de mon point de vue, assez difficile de savoir où se situent les compétences relationnelles. Est-ce que ça a un sens de parler de ça là-dedans, dans un métier féminisé à plus de 90%, je le rappelle. Si ces compétences relationnelles sont sexuées ou pas, ou structurées par d'autres types de rapports sociaux. Et en tout cas, ce qui apparaît clairement, c'est que ces appartenances socio-sexuelles ou les catégories de sexe n'ont pas la même signification sur ces différentes scènes professionnelles. Et c'est, me semble-t-il, là un vrai enjeu de notre analyse de la dimension sexuée de la relation de service. Sommes-nous capables de développer des analyses pointues sur là où tel ou tel rapport de domination est pertinent et signifiant sur quels espaces professionnels, tout en admettant que ce n'est pas le cas sur tous les espaces professionnels et sans doute pas le cas à tous les moments. Et que dire, que faire de cette observation qui est assez déstabilisante finalement quand on y pense, du fait que le récit que les fleuristes tiennent à propos de leurs clients et de leur compétences florales, pourrait-on dire, est très sexuée, est très hiérarchisée, très différenciée, voire même très naturalisante, Alors que la pratique professionnelle ne sont pas marquées par des principes de distinction sexuée des tâches. Et qu'est-ce que nous, enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça au niveau de nos analyses et comment est-ce qu'on arrive effectivement à savoir un peu plus clairement de quoi on parle quand on parle de métier relationnel et de genre. Donc je boucle la boucle. Du coup, pour revenir sur le point de départ, il me semble qu'on aurait tout intérêt à ne pas voir du relationnel que là où on voit des femmes peu qualifiées, subordonnées et subalternes. On aurait intérêt aussi à ne pas voir du relationnel que là où les enquêtés nous disent en faire. Et on aurait intérêt à imaginer que le relationnel n'est pas finalement ce qui détermine la valeur sociale d'un métier ou d'un groupe professionnel. Merci. J'ai fini. Je pense à peu près dans le temps.